Vous savez, en allemand, le mot Noël se traduit Weihnachten. Weihnachten, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, mais vous avez toute une richesse de sens qui est là. Parce que ce mot est composé, en fait, vous avez au milieu le mot Nacht. Nacht, ça veut dire nuit. Après, ce mot est mis au pluriel, Nachten, ça veut dire des nuits. Et puis après, vous avez le préfixe Weih, enfin, ça vient du verbe Weihen, et Weihen, ça veut dire consacrer et ça veut dire bénir. Donc Weihnachten, ça veut dire des nuits consacrées ou des nuits bénies. Hein ? Et vous me direz, mais pourquoi des nuits ? Eh bien, justement, parce que c'est vrai que déjà consacré, des nuits consacrées à quoi ? Bien sûr, consacrées à l'attente de la venue du Seigneur, hein, donc sur terre, pour le salut de l'humanité, et béni. Pourquoi et béni comment ? Bien béni, bien sûr, par la venue du Fils de Dieu, et spécialement quand on l'attend, et spécialement quand on s'attend à lui. Hein. Et donc, c'est dans ce sens-là que ce mot est là, et puis il était là pour exprimer aussi quelque chose, une réalité. Bon, c'est pas marqué dans la Bible l'avant. Vous entendez parler de l'avant avec A-V-E-N-T. Hein. Donc voilà, c'est pas marqué dans la Bible, mais ça exprime quand même quelque chose. L'avant, c'est une période d'attente. Traditionnellement, c'est une tradition. Et toutes les traditions ne sont pas toujours bonnes à virer à la poubelle. Hein. Vous avez des fois des traditions qui ont des bonnes choses dedans. Hein. Donc l'avant, c'était cette période qui était traditionnellement mise en évidence pour se préparer et pour attendre la venue du Seigneur. Hein. Donc voilà, c'était les quatre dimanches de l'avant. Aujourd'hui, on est le quatrième dimanche de l'avant, en fait, dans la réalité. Et donc, c'est, comme je vous dis, c'est une tradition, mais cette tradition, elle n'est pas mauvaise. Et puis, quelque part, ben, ça nous parle aussi, nous. Hein. Par exemple, si vous prenez, vous pouvez prendre une image qui est intéressante et importante à retenir, c'est que le premier dimanche de l'Avent, c'est donc il y a 3 semaines en arrière, hein, cette image, ça pourrait être pour nous une image de la première venue de Jésus. Hein, donc, il y a environ 2000 ans, il est marqué dans Galates chapitre 4, verset 4, « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi. » Donc, et à ce moment-là, il y avait des préalables bien précis qui étaient remplis, des événements qui s'étaient réalisés. L'Empire romain, à ce moment-là, était au sommet de sa puissance. Le réseau routier romain de plus de 80 000 km parcourait tous les pays de l'Empire. Il n'y avait pratiquement pas de frontières à ce moment-là, si bien qu'on pouvait voyager sans entrave d'un pays à l'autre. Il y avait une langue unique, c'était le grec en fait, qui était la langue internationale qui facilitait la compréhension entre les différents peuples. Et il y régnait une paix relative. Vous aviez une culture commune qui rapprochait les gens du monde d'alors. Et il existait aussi un système scolaire qui était pas mal développé. Et partout dans l'Empire romain, vous aviez des synagogues qui se construisaient parce que les gens étaient déçus des divinités grecques qui étaient trop semblables aux humains. Et les hommes et les femmes s'ouvraient donc aux dieux de la Bible. Et le cours du monde avait été dirigé de telle manière que tout était prêt pour la venue de Jésus. Et tout était prêt pour la propagation de l'évangile. Et ainsi, au cours des 100 premières années, donc après la naissance du Seigneur, la bonne nouvelle s'est répandue, on le sait, comme une traînée de poudre jusqu'aux extrémités de la terre du monde d'alors connu. Hein, donc ça nous parle le premier dimanche, hein, la première venue du Seigneur. Le deuxième dimanche de l'Avent, eh bien, il peut refléter pour nous la Pentecôte. Hein, on se rappelle que le moment où le Seigneur Jésus est venu dans son Église par le Saint-Esprit. Hein, donc là aussi, et depuis lors, il y a cette vérité qui est là, immuable, qui nous rappelle d'une part que toute personne qui invoque le nom du Seigneur est sauvée et qu'elle est ajoutée à l'Église de Jésus-Christ, parce que Jésus est venu en tant que sauveur dans sa vie, et le Seigneur met son esprit sur cette personne. Hein. Il la met dans cette personne, sur cette personne, parce qu'il veut aussi la remplir de sa puissance pour être un témoignage à sa gloire. Et puis le troisième dimanche de l'Avent, ça peut être pour nous une image de l'enlèvement de l'Église. Là encore, c'est le Seigneur qui revient. Mais il revient sur les nuées cette fois-ci. Hein. Il ne revient pas sur la terre, mais il revient sur les nuées. pour enlever les siens, pour ramener à la maison du Père ceux qui croient en lui et qui appartiennent à son Église. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Et puis le quatrième dimanche de l'Avent renvoie au retour visible du Seigneur dans sa gloire, hein, quand le Seigneur viendra pour établir son règne sur la terre. Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est vrai, hein, aujourd'hui nous voyons à nouveau comment s'assemblent les préalables au temps qui est fixé. Hein, donc, pourquoi ? Ben, on voit les signes qui se réalisent pour la venue, pour le retour du Seigneur, le retour du Seigneur en gloire. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit par exemple on a les gens qui aspirent à un gouvernement mondial. On cherche la paix pour le monde entier, l'unité du monde, un nouvel ordre mondial. En Europe, tout tourne autour de cette unité politique, culturelle, économique. Le monde se rapproche et les événements mondiaux sont dirigés de telle manière qu'ils servent à la réalisation du plan divin dans la perspective du retour du Seigneur Jésus. Amen. Hein ? C'est un homme de Dieu qui a écrit, bon, c'est une traduction de l'anglais, il a écrit une petite parole, c'est une petite poésie en fait, « La prochaine fois, ce sera différent », a-t-il écrit. Et voilà ce que je vous donne la traduction. « Lors de sa première venue, Jésus vint caché sous la forme d'un enfant. Une étoile annonça son arrivée. Des mages lui apportèrent des présents, il n'y avait pas de place pour lui. Peu de gens assistèrent à son arrivée, il vint comme un enfant. » Lors de sa prochaine venue, Jésus sera reconnu par tous. Le ciel sera éclairé par sa gloire. Il apportera la récompense aux siens. Le monde ne suffira pas pour contenir sa gloire. Tout œil le verra. Amen. Hein, voilà. Et puis, sans plus tarder, bien frères et sœurs, je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Un texte traditionnel de Noël, mais qui est toujours rempli de richesses pour nous. Luc chapitre 2, verset 1er. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. » Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Eh oui, c'est vrai. Alors, il était nécessaire que deux choses soient prouvées. Tout d'abord, il était nécessaire que il soit prouvé que le Seigneur est sorti sans aucune contestation de la tribu de Juda. Et ensuite, qu'il est né à Bethléem Ephrata, parce que c'est dans la prophétie de Michée, dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. Mais comment la reconnaissance publique du fils d'un humble charpentier et d'une jeune fille inconnue avec laquelle il n'était même pas marié, comment est-ce que cette reconnaissance publique allait pouvoir être prouvée ? Quel intérêt les gardiens des registres pouvaient-ils avoir pour deux personnes aussi insignifiantes, pour deux personnes d'une aussi basse origine ? Et c'est vrai que quand ce qui concernait Marie, la question paraissait entendue. Elle vivait à ce moment-là à Nazareth, en Galilée. Elle ne vivait pas du tout à Bethléem, en Judée. Et tout semblait indiquer que la naissance aurait lieu là. Et même l'époque de l'accouchement était tellement proche qu'il n'était pas question d'entreprendre un voyage aussi long et périlleux vers la province de Judée, dans le sud, à moins d'y être fortement contraint. Et alors comment les choses vont-elles s'arranger ? Eh bien voilà comment ça va s'arranger. Il y a un petit tyran qui s'appelle Hérode et qui montre quelques manifestations d'indépendance vis-à-vis d'un plus grand tyran qui s'appelle César Auguste. Hein, voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est que César Auguste se sent offensé. Alors, il annonce à Hérode qu'il ne sera plus son ami, mais que maintenant, il va considérer Hérode comme son vassal. Et quoique Hérode fasse une soumission parmi les plus totales, parmi les plus abjectes, on peut dire, et quoique ses amis aient intercédé pour lui à la cour, César Auguste, donc, pour montrer son déplaisir, ordonne qu'un recensement soit fait. Recensement en vue du paiement d'un impôt à venir, d'un impôt futur, donc, et lequel impôt d'ailleurs arrivera une dizaine d'années plus tard. Et alors un édit est publié, un édit qui est dur, un édit qui est tyrannique et qui ne s'occupe pas des conséquences que ça peut avoir pour les gens. Chacun doit retourner sans tarder dans la ville où il est censé être originaire pour s'y faire inscrire. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et ainsi, Marie est ramenée à Bethléem et Jésus naît comme il avait été annoncé. Et en plus, il est officiellement reconnu comme descendant de David par le fait que sa mère, donc, est allée comme étant de cette lignée, qu'elle était inscrite là, qu'elle est restée, qu'elle est revenue en Galilée, que personne n'a mis la chose en question. Donc voilà comment les choses se sont passées. Et lorsque toutes les personnes de la maison de David, de la famille, de tous les descendants de David, se furent ainsi rendus à Bethléem, la petite ville a été rapidement envahie. Elle était rapidement remplie parce qu'il y en avait beaucoup. Alors certainement, les amis ont accueilli leurs amis jusqu'à ce que leur maison soit remplie, mais Joseph n'avait pas d'amis dans la ville. Hein, donc, il y avait aussi le caravansérail, donc, qu'on trouvait dans chaque ville, dans chaque village. Et là, le logement gratuit est offert à tous les voyageurs. Et là aussi, c'était plein. Là aussi, c'était rempli parce que les gens étaient venus en grand nombre. Et puis Marie, évidemment, ils étaient obligés de voyager lentement, vu son état, il venait d'une certaine distance. Donc, ils sont arrivés trop tard dans la journée et ne restait plus aucun logement. Et pour cette femme au travail, ben, il ne restait plus que cette étable. Et là, le roi de gloire naquit. Et c'est ainsi qu'il fut mis dans la crèche. Et notre tâche d'aujourd'hui sera de nous amener, d'amener chacun dans l'étable de Bethléem pour voir cette grande vision. Le Sauveur dans la crèche. Et comprendre la raison de ce pauvre état. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, il y avait d'autres raisons aussi pour lesquels Christ a été couché dans une crèche. Ça sera notre premier chapitre, ces autres raisons. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles Christ a été couché dans une crèche? Déjà, c'est pour montrer son humiliation, pour montrer combien il s'est abaissé en humilité. Hein? Dans Ésaïe 52 et 53, la prophétie donc, qui datait de 8 siècles auparavant, il nous a expliqué, il nous a annoncé qu'il fallait qu'il vienne, suivant cette prophétie, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous dit Ésaïe. Il ajoute un peu plus loin, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et encore un peu, il ajoute encore, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Voilà, vous savez que Jésus devait mourir presque nu sur une croix. Il devait être enseveli dans un tombeau emprunté. La crèche et la croix se dressant donc aux deux extrémités de la vie terrestre du Seigneur, mais c'est des choses qui vont tout à fait l'une avec l'autre, hein, on le voit. Et nous savons comment le Seigneur devait porter toute sa vie le vêtement du paysan. Nous savons comment il aurait à s'asseoir avec des pêcheurs, avec des pêcheurs et des pêcheurs, ben oui. Hein, nous savons comment les humbles seraient ses disciples. Nous savons comment les montagnes seraient souvent son seul lieu de repos. Hein, il aura à dire, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour reposer sa terre. Hein. Donc rien ne pouvait donc aller mieux au moment de son humiliation, où il s'est abaissé, où il a quitté la gloire pour prendre la forme d'un serviteur, en s'abaissant plus bas. Rien ne pouvait aller mieux que de naître et d'être couché dans une crèche. Puis la deuxième raison pour laquelle il a été dans cette crèche, c'est pour montrer qu'il est le roi des pauvres. Pour montrer qu'il est le roi des pauvres. Et je pense que le sentiment des bergers auquel cette nouvelle a été annoncée a été encore bien plus grand lorsque l'ange a dit « Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant enveloppé de linge et couché dans une crèche ». Vous savez, les habits royaux, ça n'attire pas forcément l'affection des pauvres, mais celui qui porte leurs vêtements attire leur confiance. Hein. Des ouvriers vont s'attacher à un chef, à un patron qui est passé par le même travail qu'eux. Ils vont s'attacher avec fidélité. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que ce patron connaît, il sait ce que c'est que leur travail, il connaît leurs intérêts, ils savent qu'il va pouvoir sympathiser à leurs soucis, à leurs travaux. Un grand général comme Garibaldi, par exemple, enfin, qui était très populaire parmi ses troupes, hein, donc lors, c'était lors de l'unité, la grande guerre qu'il y a eu pour l'unité italienne au XIXe siècle, Garibaldi était très très populaire. Pourquoi ? Mais parce qu'il était toujours avec ses soldats, parce qu'il couchait avec eux, parce qu'il était vraiment avec eux. Donc si ce roi des hommes est né à Bethléem, eh bien, c'est vrai qu'il n'a pas été à l'abri des peines qui concernent les pauvres. Au contraire, nous voyons que les siennes, les peines du Seigneur, ont été plus grandes encore que les leurs. Et j'ai l'impression d'entendre les réflexions de ces bergers autour de la crèche. Ah, Tina, il ne va pas être comme Hérode le tyran. Hein, il se souviendra des pauvres. Il se souviendra de la crèche. Pauvre enfant, quelle affection je ressens envers lui, parce que quel triste accueil ce monde mauvais a pour lui. Et puis un autre va dire, mais non, mais ce ne sera pas un César, hein, celui-là. Hein. C'est pas lui, c'est pas un César qui est né aujourd'hui. Il ne piétinera pas nos champs et nos prairies avec ses armées. Il ne massacrera pas nos troupeaux pour nourrir ses courtisans. Il sera l'ami des pauvres. Il sera le roi du peuple. Et c'est vrai que celui qui est présenté comme le prince de notre race, le seigneur de tous, eh bien, il ne tient pas compte, justement, il ne tient pas compte de l'argent, de l'or, de la gloire humaine, mais il appelle les choses qui ne sont pas, celles qui sont folles aux yeux du monde, pour réduire à néant celles qui sont, nous dit l'apôtre Paul. Ce sont les choses viles, celles qu'on méprise, que Dieu a choisies pour tailler en pièces la puissance, l'orgueil, la majesté des grandeurs humaines. Amen. Et puis, la troisième raison de la crèche, c'est pour inviter les plus humbles à venir à lui. Ça aussi, c'est quelque chose, hein, parce qu'on peut trembler quand on s'approche d'un trône, mais on ne va pas trembler quand on s'approche d'une mangeoire, n'est-il pas vrai ? Hein, c'est vrai. Et si dès le début, nous avions vu le maître sur son ânon lorsqu'il était dans Jérusalem, et lorsqu'ils avaient tapissé, rappelez-vous, le sol avec des vêtements, avec des palmes, etc., on aurait pu se dire, oh là, mais est-ce que je vais pouvoir m'approcher de lui ? Et pourtant, nous savons que même là, on pouvait vraiment s'approcher de lui. Hein. Il y a personne de plus facilement approchable que le Seigneur. Le bord de son vêtement était toujours à la portée des malades. Nous savons que sa main était toujours prête à toucher les plaies. Hein. Nous savons que son oreille était exercée à entendre les plus faibles, les plus petits, les plus misérables. Il était dit de lui qu'il mangeait avec les publicains et les pécheurs. Et cet homme reçoit les pécheurs, mange avec eux. Voilà, c'est vrai. Hein, et comme enfant déjà, déposé dans cette crèche, il a été présenté comme l'ami des pécheurs. Amen. Et c'est pourquoi venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à lui, vous qui avez l'esprit brisé, vous qui avez l'âme abattue. Venez à lui, vous qui vous méprisez vous-même peut-être, qui êtes méprisé par les autres. Venez à lui, oui, publicain, venez à lui, même prostitué, venez à lui, voleur, venez à lui, ivrogne, il est là. Il est là dans la crèche pour que vous puissiez venir à lui, plier le genou, le toucher, l'adorer. Amen. Hein, et acceptez-le comme votre sauveur, parce que lui-même a voulu, par cette crèche, que vous puissiez l'approcher. Amen. Et puis, souvenez-vous encore d'une autre chose, une quatrième chose concernant cette crèche, c'est que l'entrée, l'accès à cette crèche était libre pour tous. L'entrée dans ce lieu était libre pour tous, c'était une hôtellerie. Alors il faut quand même se rappeler qu'à l'époque c'était différent d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui quand vous êtes dans un hôtel, ben écoutez, il faut payer le gîte et la nuit, vous le savez bien. Hein. Mais dans les temps anciens, eh bien, c'était considéré comme un honneur d'accueillir un étranger, déjà il y a cette période-là. Plus tard, lorsque les voyages sont devenus plus fréquents, beaucoup ont voulu donner cet honneur et ce plaisir à d'autres, hein, à leurs voisins. Et plus tard encore, vous avez eu une personne qui était désignée dans chaque ville, dans chaque village, qui était destinée à accueillir les étrangers au nom des autres. Et puis plus tard encore, quand le monde est devenu plus compliqué et que la charité et l'amour s'est refroidi, bien la seule peine qui a été prise, c'était la construction d'un grand bâtiment en carré autour d'une cour, donc ce qu'on appelait le caravansérail. Et puis là, vous aviez des pièces pour que les gens puissent se mettre. Et puis et parfois aussi, il y avait des pièces aussi plus petites. Parfois, il y avait encore de l'eau, du foin pour le bétail. Et les voyageurs devaient se débrouiller, s'installer le plus confortablement possible. Donc, il n'y avait pas à payer l'entrée du caravansérail. C'était libre. Les tables aussi. Et puis c'est comme ça que Jésus naît dans l'étable du caravansérail pour montrer combien il était prêt, combien il est prêt à accueillir tous ceux qui viennent. Amen. L'évangile est prêché à toute créature et n'en rejette aucune. Et c'est pour cela, si vous voulez venir à Christ, vous pouvez le faire comme vous êtes. Vous pouvez le faire maintenant. Et Jésus vous accueillera avec amour et avec joie. Et c'est encore pour le montrer qu'il est venu dans une crèche. Et ainsi Dieu n'a rejeté personne. Alors ne vous rejetez pas non plus vous-même, à moins que vous ne trouviez un passage dans la Bible qui dise clairement qu'il n'est pas capable de vous sauver. Eh bien, prenez au contraire ce passage où il est écrit « Il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Amen. Amen. Et puis remarquez enfin une cinquième chose, c'est qu'il a été couché dans une crèche, une mangeoire où les bêtes étaient nourries. Hein, où les bêtes étaient nourries. Et ça nous parle parce que c'est vrai qu'il y a certains hommes qui sont devenus comme des bêtes à cause du péché. Se sont rabaissés eux-mêmes au rang de la bête par leur passion mauvaise, même plus bas. Hein. Mais même pour eux, le remède est en Jésus, le grand médecin. Et ce remède est toujours applicable, alléluia. Aucune créature n'est tombée si bas que le Seigneur ne puisse la relever. Alors elle peut être même en chute libre vers l'enfer, eh bien le bras du Seigneur, le bras puissant du Seigneur peut l'atteindre, même dans l'état le plus désespéré. Et s'il y en est parmi nous qui sont rejetés par la société, même qui se haïssent eux-mêmes, eh bien le Seigneur, notre maître, donc, dans cette étable avec ses bêtes, se présente comme capable de sauver le plus grand des pécheurs. Amen. Je vous racontais une extraordinaire histoire de Noël qui s'est passée il y a quelques années. Donc, une histoire émouvante et vraie qui explique ce qui peut se produire quand certains écoutent le message de Noël. Olmos, c'est la plus grande prison de haute sécurité en Argentine. Et aujourd'hui, c'est le siège de la plus grande église en prison du monde, forte d'environ 2000 membres. Et voici une histoire unique de prière, de témérité, d'amour. Voilà, dans ces quartiers d'habitation des prisonniers, les viols, les meurtres étaient devenus pratiquement incontrôlables. Le meurtre n'avait rien d'inhabituel. Les crimes violents étaient monnaie courante. Des sacrifices d'animaux, des rituels occultes étaient à l'ordre du jour. Les détenus étaient devenus prisonniers, donc d'obsessions sataniques. Certains disaient qu'ils avaient vu des démons nains monter et descendre les escaliers de la prison. Et d'innombrables histoires décrivaient la présence du mal qui dominait complètement la prison. Et le pasteur Juan Zuccarelli s'est senti appelé à servir le Seigneur dans cette prison-là. À cette époque, il n'était pas possible d'entrer dans les prisons pour y prêcher en Argentine. Et un autre chrétien a suggéré que Juan devienne gardien de prison et qu'il puisse ainsi y accéder. Et Zuccarelli raconte et dit « Le premier jour de mon service comme gardien, j'ai eu un sentiment bizarre. J'ai demandé à mon formateur si on était autorisé à parler de religion. Il m'a interrogé sur ma confession et j'ai répondu que j'étais chrétien, que j'appartenais à une église protestante évangélique. » Et le formateur a répondu « Ah bon, vous appartenez à une église comme cela? Je déteste les gens des églises évangéliques. Si vous en êtes, vous aurez des problèmes avec moi. » Et il m'a dit qu'en ce lieu, c'était lui le seul Dieu et que dorénavant, il sera la parole de Dieu pour moi. Et il me fit sortir de son bureau. Voilà. Alors bon, au bout de quelques temps, un jour, au moment de Noël, après de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles, il y a eu une réunion évangélique dans la prison. Il y avait environ 300 détenus qui étaient venus, et une centaine d'entre eux ont dit la prière par laquelle ils recevaient dans leur vie Jésus comme leur sauveur et leur maître. Et beaucoup de ces chrétiens n'ont pas pu retourner dans leur cellule à cause des persécutions. Et cette situation précaire a conduit les chrétiens à demander aux autorités un quartier réservé exclusivement aux chrétiens qui confessaient que le Christ les avait renouvelés intérieurement. Et la demande a été reçue favorablement. Et ce quartier a vite été le plus attrayant de toute la prison. Et c'était un signe pour les autorités pénitentiaires que les prisonniers, donc, que des changements importants étaient en train de se faire en cours parmi ces prisonniers-là. Donc, et de plus en plus de blocs de cellules ont été concédés aux chrétiens. Avec un taux de croissance d'un bloc de cellules par mois, les chrétiens ont commencé à prendre la prison pour Christ. Et le formateur, le fameux formateur, qui au début était hostile, est devenu plus tard diacre et secrétaire de cette assemblée, de cette communauté-là. Voyez-vous, Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires par sa puissance. Il est capable de sauver et de délivrer admirablement même les plus bas tombés. Béni soit son nom. Amen. Donc un témoignage de Noël. Et puis si j'en reviens à mon texte, je suis obligé de constater dans le deuxième grand chapitre, c'est qu'il y avait d'autres endroits à côté de l'hôtellerie où il n'y avait pas de place pour lui. Hein, donc voilà, ben on s'aperçoit quand même que le palais des rois, le palais des empereurs, ne lui ont offert aucun refuge. C'est vrai, un palais pourtant c'est grand. C'est grand un palais, mais il y a rarement de la place pour Christ dans un palais, vous savez. Hein? Pourquoi ? Comment est-ce que les puissants de cette terre vont recevoir Christ ? Il est le prince de la paix. Et eux, trop souvent, c'est pas tellement la paix qu'ils aiment. On voit la facilité avec laquelle certains conflits peuvent se faire. Il est rempli de douceur, d'humilité. Eux, ils aiment trop souvent ce qui est grand et ce qui est pompeux. Il enseigne de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Et eux, ils trouvent ça très difficile à mettre en pratique dans les ruses de la politique et de l'ambition. Eh oui, c'est vrai, il n'y a pas de place pour Christ parmi les grands de la terre. Mais combien elle est vraie, au contraire, la parole de Dieu qui dit « Les rois de la terre se sont élevés, les grands de la terre se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Ah, dans le ciel, mes amis, on pourra voir peut-être, oui, un roi ici ou là, mais tellement peu, hein, parce que Christ fréquente beaucoup plus souvent une pauvre maison qu'un palais, et il n'y a pas de place pour Christ dans les palais trop souvent. Et puis alors après, les hommes politiques, ou les représentants du peuple, ces lieux où les représentants du peuple font les lois, est-ce qu'il y a de la place là pour Christ dans ces lieux-là ? Hein, donc, hélas, on s'aperçoit que là encore, il y a bien peu de place pour Christ au Parlement, par exemple. Hein, combien les religions sont peu reconnues par les politiciens, à moins qu'il s'agisse d'une religion d'État ou quelque chose qui y ressemble, mais ça ressemble plus à ce moment-là à un lion, je dirais, aux dents qui sont arrachées, à la crinière qui a été tondue, aux griffes qui ont été limées. Donc, mais le véritable Seigneur, le véritable Christ, avec ses fidèles, Christ et l'Évangile, eh bien ça, pour eux, c'est du sectarisme. Et ça ne doit pas être bien accueilli. Et il faut se dire que c'est comme ça, et que ce sera malheureusement de plus en plus comme ça. Les partis politiques, les chercheurs de postes en vue, ne donnent pas de place vraiment aux représentants du ciel parmi les représentants de la terre. Et puis dans ce qu'on appelle la bonne société, est-ce qu'il y a de la place pour le Seigneur, pour Jésus-Christ, dans la bonne société ? N'y avait-il pas à Bethléem des personnes respectables, des personnes qui se séparaient du commun des mortels, vous savez, des gens de bonne réputation, des gens élevés dans l'échelle sociale ? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas donner une place à Christ ? Ah, là encore, mes amis, trop souvent, il n'y a pas la moindre place pour Christ dans ce qu'on appelle la bonne société. Oui, il y a de la place pour toutes ces petites choses vaines auxquelles les hommes ont décidé de s'occuper les uns les autres. Hein. Il y a de la place pour les conversations frivoles, il y a de la place pour ce qu'on appelle les potins du jour, il y a de la place pour le culte du corps, il y a de la place pour la mode, voilà. Il y a de la place peut-être pour l'installation de telle ou telle idole du moment, telle ou telle idole de l'heure, mais il y a trop peu de place pour Christ. Et c'est tellement loin de ce qu'il faudrait pour le suivre pleinement. La venue de Christ, c'est la dernière chose qui intéresse cette agréable société. C'est la dernière chose que cette société-là peut souhaiter. Et si vous commencez à parler des choses de Dieu, des choses de Christ dans cet endroit, eh bien, il y en a un qui va dire « Je n'inviterai plus jamais cette personne chez moi. » Et puis l'autre va ajouter « Il faut toujours qu'il amène sa religion avec lui. » Voilà. Et nous voyons ainsi que dans ce monde aussi, il n'y a pas de place pour Christ. Et puis, mais est-ce qu'il y a de la place pour lui dans le commerce ? Hein, est-ce qu'il y a de la place pour lui dans les affaires, hein, donc sur le marché, dans les magasins, au milieu des achats, des ventes, n'y a-t-il pas de la place pour Christ là? Ah, vous savez, là aussi encore, combien peu on trouve là de l'esprit, de la vie et de la doctrine de Christ. Ah, le marchand, trop souvent, trouve ennuyeux d'être trop scrupuleux. Hein, le courtier pense bien que s'il veut s'enrichir rapidement, bah, il faut qu'il fasse quand même taire sa conscience. Il s'aperçoit que combien qui mentent indirectement. Mais c'est quand même un mensonge. Hein, ils exagèrent une partie de la vérité et puis ils en cachent une autre. Voilà. Et puis, que de tristes pratiques, hein, que de tromperies, que de mensonges. Et le Seigneur ne peut vraiment pas mettre de bénédiction s'il commence à regarder derrière certains comptoirs ou derrière certaines vitrines. Hein. S'aperçoit trop souvent de cela, hein, des banqueroutes, des tours de passe-passe financiers aujourd'hui encore plus que jamais. Des fraudes sont tellement abondants, là encore, qu'il n'y a pas de place pour Christ trop souvent sur les marchés, dans les magasins, à la bourse, etc. Eh oui, c'est vrai. Mais certainement, allez-vous me dire, mais certainement, les écoles de philosophie vont s'occuper de cela. Hein, tant qu'ils vont trouver en lui la science parfaite, la science incarnée. Lui qui, dans sa jeunesse, a pu enseigner les docteurs de la loi, certainement, il va trouver une place parmi les sages. Hein, à l'époque, c'était les sages de la Grèce. Et tout homme de sens va l'honorer. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais il n'en est pas ainsi, parce que là encore, il y a très peu de place dans les facultés, dans les universités, sur les sièges du savoir. Très peu de place pour Christ. On s'aperçoit de cela. Hein. Au contraire, on s'aperçoit que bien souvent, on utilise ce savoir pour présenter des objections à Christ. Trop souvent, hein, là encore. Par exemple, vous avez cette fameuse théorie de l'évolution hein, qui est enseignée, voilà, et que d'erreurs qui sont propagées par la théorie de l'évolution qui nous est enseignée sous un vernis scientifique qui prétend réfuter la parole de Dieu, qui prétend refuser, rejeter le message de Christ, qui refuse la venue miraculeuse de Christ et qui veut empêcher l'œuvre de Christ s'accomplir pour le salut de l'humanité. Vous savez, on a longtemps cru, on a longtemps affirmé que l'homme de Néandertal, c'était l'ancêtre de l'homme d'aujourd'hui. Moi, j'ai encore des documents qui sont là-haut, qui me le prouvent, enfin, dans lesquels on nous l'affirme, des documents, voilà, que c'est l'ancêtre de l'homme d'aujourd'hui. Ou alors, une autre école disait qu'ils avaient disparu de la planète avant l'apparition de l'Homo sapiens. Homo sapiens, ça veut dire homme sage, c'est nous. Voilà. Mais voilà, encore une fois, des ossements qui ont réellement été exhumés et dont l'âge, c'est en Israël, d'ailleurs, c'est assez surprenant, dont l'âge a été comparé grâce à une nouvelle technique de datation radioactive très précise, prouve que les hommes de Néandertal vivaient dans les mêmes lieux et à la même époque que des hommes qui ont la même morphologie que la nôtre. Hein, donc, c'est une découverte qui amène d'ailleurs certains à se demander si les Néandertaliens n'ont pas été victimes d'un génocide. Mais voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants doivent revoir leurs copies. Voilà, ils doivent ériger en certitude scientifique de nouvelles hypothèses. Les élèves de demain vont devoir apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train d'apprendre aujourd'hui. Hein, donc, tout simplement. Et je dis demain parce qu'il faudra encore, il faudra auparavant changer tous les manuels scolaires, et il faudra recycler les enseignants, et tout ça, ça coûte de l'argent, tout ça, ça prend du temps. Hein. Vous avez aussi l'histoire du seul que la Kant, si vous avez peut-être suivi ça. Donc, ce fameux que la Kant, cette espèce de poisson plus ou moins cuirassé, là. Et je me souviens quand à l'école, on me disait, on m'expliquait que le que la Kant, eh bien, c'était un maillon disparu. Entièrement disparu de la chaîne de l'évolution qui reliait la soupe de protéines à un début à l'homme en passant par le poisson et le singe entre autres. Voilà. Et telle était alors la vérité scientifique, entre guillemets, qui était reconnue, qui était diffusée jusqu'au jour où dans les fosses profondes du Pacifique, on a découvert des quelacanthes vivants, toute une série tout à fait bien réfractaire à toute forme d'évolution, parfaitement semblable à ceux aux fossiles qu'on avait découverts. Voyez-vous, cette théorie de l'évolution qui a été initiée au départ par ce que Darwin appelait le transformisme, d'ailleurs il a récusé ça au soir de sa vie, c'est Jean Rostand qui a dit à ce sujet de cette théorie que c'était un aimable conte de fées pour grandes personnes. Eh oui, c'est vrai. Elle est battue en brèche par diverses découvertes scientifiques récentes dans des disciplines de pointe comme la biologie moléculaire par exemple, et de nouvelles données en paléontologie, en géologie, qui obligent à interpréter différemment des réalités qui avaient été observées. Et les générations à venir riront sans doute de notre crédulité face à ces contes de fées. Hein, donc voilà, alors méfions-nous des idées reçues, hein, parce que parfois c'est que des fables, et en plus elles peuvent avoir la vie dure, pourquoi ? Parce qu'elles plaisent souvent davantage que l'histoire vraie, hein, donc en tout cas aux hommes qui ne veulent pas croire au Seigneur. Tout ça pour nous dire que la science, hein, malgré tout, trop souvent en tout cas, les études ont été comme la forge qui a servi à fabriquer les clous de la crucifixion de Christ. Et nous sommes obligés de dire que trop souvent, ben, justement, la philosophie a fait du mal à Christ au lieu de servir sa cause. Et puis, en ce qui concerne le Sanhédrin, est-ce qu'il n'y avait pas de la place pour lui au Sanhédrin ? Quand je dis le Sanhédrin, je peux aussi bien parler dans le temple ou dans la synagogue. Ah bien là aussi nous voyons qu'il n'a pas trouvé de refuge. Au contraire, c'est dans ces lieux que, tout au long de sa vie, il a rencontré ses plus féroces ennemis. Hein, donc, ce sont les prêtres, nous le savons, qui ont été les organisateurs de sa mort. Ce sont eux qui ont poussé la foule à crier, non pas lui, mais Barabbas. Ce sont eux qui ont payé les 30 pièces d'argent et qui ont été les principaux instigateurs de sa mort. Nous savons cela. Et trop souvent, dans l'église établie, dans l'église des prêtres, lorsqu'elle était reconnue, lorsqu'elle était montée en dignité, il n'y a plus de place pour Christ. Trop souvent, ça a été comme cela. On peut alors constater cette étrange chose. Christ venant au milieu des siens et ceux-ci ne le recevant pas. Donc, et devant même trop souvent les ennemis, hein, et parfois même dans certaines périodes les plus grands ennemis de la véritable religion pure et sans tache. Hein, donc, et là encore, vous savez, c'était souvent un grand prodige, c'était une grande merveille lorsque certains des dignitaires de ces églises-là se convertissaient réellement à Jésus-Christ. Et il n'y a pas de place, il n'y a pas eu de place, hélas, pour Christ dans tous ces lieux-là, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, il est important de considérer combien le prince de la paix est celui qui vient dans les esprits humbles et contrits qui viennent à lui pour le servir. Amen. Amen. Être de ceux qui cherchent le Seigneur. Rappelez-vous, il nous a expliqué aussi, ça c'est dans l'évangile de Matthieu, vous avez ce passage que je vous lis juste en passant. Puis il, c'est-à-dire Hérode, les envoya à Bethléem, donc, c'est les mages qui n'est de rien, en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. » Donc ça se passe à Jérusalem. Bethléem est à 10 km. Combien de temps est-ce qu'il vous faut, un bon marcheur, pour faire 10 km ? Combien de temps est-ce qu'il vous faut pour faire 10 km ? Hein ? C'est quand même pas terrible, je pense. Hein ? Et on voit cette bourgade qui paraissait insignifiante, mais en tout cas, elle était quand même connue pour être le lieu de naissance du roi David. Et lorsque les mages venus d'Orient sont arrivés là, ils ont commencé par se rendre à Jérusalem, pensant, à juste titre, obtenir des informations plus précises sur l'endroit où se trouvait l'enfant Jésus, où se trouvait le Seigneur. Et ils ont appris donc que le Messie se trouvait à Bethléem et se sont empressés de s'y rendre. Donc eux, ils ignoraient ce détail qui était annoncé par le prophète Michée, dans Michée chapitre 5, verset 2. Mais les scribes et autres spécialistes de la loi, de la Torah, ils connaissaient ce détail, puisque c'est eux qui en ont fait part au roi Hérode. Et donc, nous voyons que ces mages venaient de très loin. Nous voyons qu'ils ont voyagé probablement pendant des semaines, peut-être même des mois. Mais nous voyons, ils n'ont pas perdu de temps à Jérusalem. Hein. Tandis que ces fameux enseignants qui savaient tout ça, ils vivaient à 10 km de Bethléem. Hein, donc, mais ils ne s'y sont pas rendus compte. Sur place. Hein, pourtant, eh bien, nous voyons qu'ils représentaient l'élite intellectuelle de la nation. Ils étudiaient la parole de Dieu nuit et jour. Certains pouvaient vous réciter par cœur le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse, de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils pouvaient réciter ces cinq livres-là à la suite par cœur. Ils pouvaient vous dire cela. Et pourtant, ils ont réussi à rater le rendez-vous avec Jésus. Simplement parce qu'ils se sont attachés à la lettre, mais ils ne se sont pas attachés à la rencontre personnelle avec le Seigneur. Et nous, le problème, c'est ça. Hein, prenons garde. On peut entendre la parole du Seigneur. On peut entendre la prédication. On peut lire la parole. On peut avoir beaucoup de connaissances. Mais est-ce qu'on a vraiment un contact avec Jésus? Est-ce qu'on a vraiment une communion avec le Seigneur? Voilà la grande nécessité. Voilà le grand point devant lequel nous sommes, nous aussi, en ce jour, chacune et chacun. Amen. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions véritablement être de ceux qui le recherchent et qui se tournent vers lui de tout leur cœur. Amen. Et puis, j'arrive à ma conclusion pour parler de ce jeune homme, ce jeune garçon, qui avait perdu son père. Et tout ce qui lui restait, c'était une photo. Une photo de son cher papa accroché au mur. Et là, Noël était proche et l'instituteur a demandé aux enfants, voilà, qu'est-ce que vous souhaitez comme cadeau? Qu'est-ce que vous souhaitez comme cadeau pour Noël? Alors, il a reçu, bien sûr, toutes sortes de réponses possibles et imaginables. Et quand son tour arriva, le petit orphelin dit la chose suivante. « Je souhaiterais comme cadeau que mon cher papa puisse sortir de son cadre et être à nouveau avec moi. » Évidemment, bien sûr. Hein. Et voilà exactement ce qu'a fait le Père Céleste pour nous. Hein. Il est descendu du cadre du ciel. Il est apparu parmi nous dans son Fils Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Et que personne d'entre nous ne se prive de cette grâce de Dieu. Que tous puissent sans exception s'approcher pleinement de ce Seigneur, le recevoir enfin, l'accueillir dans le cœur avec amour, avec reconnaissance, avec dévotion, avec adoration. Une anecdote encore. C'est celle de cette femme d'un certain âge qui, par mégarde, a perdu son alliance dans les toilettes. Et 39 ans auparavant, elle avait reçu cette alliance des mains de son mari à l'occasion de son mariage. Et puis, lui était récemment décédé. Mais donc, bien sûr, elle portait son alliance qui avait glissé de son doigt et qui avait disparu. Alors, elle a écrit une lettre désespérée à la mairie de sa ville en demandant de l'aide. Alors, habituellement, les services de la ville ne s'occupent pas de ce genre de demande. Mais dans ce cas précis, il y a quelqu'un qui a été touché et ils ont fait une exception. Et c'était un boulot sale, mes amis. Hein, vous imaginez, hein. On introduisait une caméra dans les égouts, mais sans résultat. On a filtré ensuite les eaux usées à travers un filtre à gravier fin, mais là encore sans résultat. Mais on n'a pas abandonné, on a fini par rincer manuellement avec un tuyau d'arrosage cette masse puante pour en dégager des objets solides. Et on a retrouvé l'alliance. On a trouvé l'alliance, on a remis cette alliance précieuse à cette femme. Elle raconte qu'elle a conçu une telle joie qu'elle paraissait rajeunie de 10 ans. Ça s'est passé en Allemagne, cette affaire-là. Et cette histoire, ça me fait penser à l'amour de Dieu. Ça me fait penser à l'amour de Dieu parce que Jésus est venu du ciel, dans l'obscurité de ce monde, dans la boue qui entoure nos âmes, c'est vrai. Et tu es venu en Christ pour sauver quelque chose qui était infiniment plus précieux qu'une alliance. C'est-à-dire, il est venu sauver l'âme de l'être humain. En tout cas, pour lui, c'est elle qui était perdue, qui était souillée, je dirais, dans le cloaque du péché, perdue dans la nuit de la grande détresse, dans les fleuves du désespoir, la boue de la désespérance, de la solitude. Et à Bethléem, Jésus est né. C'est vrai, Jésus est né, nous savons comment il est né, de la manière la plus humaine qui soit. Et la Bible dit en Luc 19, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Matthieu chapitre 1, verset 21, il est marqué, elle donnera la naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Hein? Et dans Luc au chapitre 1, verset 36, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et c'est vrai, Jésus est venu du ciel sur la terre afin de nous mener au ciel. Amen. Ça veut dire que par sa naissance, par sa mort, par sa résurrection, par ce retour en gloire, il a ouvert à tous les hommes un accès éternel. Amen. La porte est grande ouverte. Personne ne doit se sentir exclu. Et chacun est invité, chacun a le droit d'aller au ciel. Ce n'est pas un homme exceptionnel qui est né, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Il est demeuré ce qu'il était. Il est demeuré Dieu, oui c'est vrai. Il est devenu ce qu'il n'a pas été auparavant. Il est devenu homme et seul un grand Dieu peut se faire si petit. Il est venu doux et bon. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour juger. Pour juger, il n'aurait pas eu besoin de se faire homme. On le voit clairement. Le péché avait triomphé de l'homme. Le péché avait apporté la mort. et l'homme Jésus a triomphé du péché et il a apporté la vie. Amen. Dieu est devenu un enfant afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. Et à cet effet, il s'est choisi une femme appelée Marie qu'il avait créée lui-même car il a été le créateur. Et tu es peut-être arrivé au bout de tes possibilités, ton âme est vide, tu aspires au salut. C'est Spurgeon donc, ce célèbre prédicateur qui a exprimé cela de la façon suivante. Extérieurement, tout semble en ordre, mais intérieurement, tu cherches Dieu. Tu as perdu l'espoir. Ta santé a-t-elle faibli? Tes amis t'ont-ils quitté? Tes rêves se sont-ils évanouis? Ta foi s'est-elle desséchée? Ton amour s'est-il refroidi? Ta paix a-t-elle disparu? Ta tristesse a-t-elle grandi? Tes souffrances sont-elles au plus fort? Tes larmes t'ont-elles vaincu? Alors, regarde à Jésus. Invoque-le. Demande-lui de t'aider. Il tient en réserve pour toi un grand salut. Regarde à lui, vis, oui, vis. Amen. Et l'apôtre Paul encore dans Romains 10, verset 13. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit lui-même en Matthieu 24, verset 30, « C'est alors que le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande gloire. » Amen. Amen. Alléluia. C'est James Packer encore, qui était professeur de théologie systématique et historique, et déclarait la chose suivante. « La vérité est que la richesse que Jésus donne n'est comparable à rien d'autre. » La vie avec Christ vaut énormément la peine d'être vécue, car elle est énormément remplie de joie, énormément épanouissante. Aucune vie ne peut surpasser en qualité la vie d'un chrétien. Noël, mon ami, mon frère, ma sœur, Noël signifie beaucoup plus que tu ne penses. Noël, c'est la réalisation du projet de Dieu pour te sauver. Alors, eh bien, pense-y et tourne-toi vers lui et confie-toi en lui. Amen, amen. Te remercions, Seigneur, encore pour ta grâce et ton salut. Te remercions pour ton œuvre bénie. Te glorifions encore maintenant pour ces moments que tu nous accordes. Merci de pouvoir encore te prier, Seigneur, et te rendre grâce et gloire. Et merci de nous mettre et de nous garder dans cette bonne disposition. Et merci pour l'œuvre de salut et de vie que tu as fait encore dans chacune, dans chacun, dans certains encore tout particulièrement. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Encore un chant de Noël encore. Te rappeler que simplement plusieurs choses. Nous avons un culte tout à l'heure à 10h45. Alors avant cela, on aura bien sûr l'aération, la désinfection, le nettoyage. Et merci pour ceux qui participent à ce travail-là. La réunion de mercredi soir aura lieu ici à 18h. Vous savez que c'est toujours cette heure-là à cause du couvre-feu. Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire pour cette réunion-là. Nous aurons une prédication de Noël en ligne. Ce sera le vendredi soir, donc sur le site de l'Église. Il n'y aura pas de distribution de traités, d'évangélisation du samedi après-midi pendant la période des vacances scolaires. On va demander à notre frère Benjamin Tombi s'il veut bien prier avec nous pour les offrandes. Je vous rappelle que vous pouvez les déposer dans les coupes en inox qui sont de chaque côté là-bas, les offrandes je parle. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous accompagne, vous fortifie en lui. Amen.